L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant, elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Que le nom du Seigneur soit glorifié. » La sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? D'où vient la sagesse? Et où est la demeure de l'intelligence? La parole de Dieu nous révèle l'homme n'en connaît pas le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi. Et la mer dit, elle n'est pas avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'ajette pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse point, comme nous l'avons lu. D'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. C'est Dieu qui en connaît le chemin. Et que l'Esprit de Dieu nous aide à marcher dans son chemin, parce que c'est lui qui en sait le chemin. C'est le Seigneur qui en sait aussi le chemin. C'est le Saint-Esprit qui est aussi capable, puissant, pour nous conduire dans ce chemin glorieux et merveilleux. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Lorsque nous lisons dans le premier livre des Rois, au chapitre 4e, verset 34e, il y a bien sûr, pour les fidèles lecteurs de la parole, nous connexons, Dieu donna à Salomon de la sagesse. Et on sait comment Dieu a donné cette sagesse à cet homme. Une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Il venait des gens de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Il venait pour entendre sa sagesse, 3000 proverbes qu'il a écrits, et chercher la réponse à leurs problèmes. Dieu a donné à Salomon la sagesse, très grande intelligence. Je crois que c'est important parce que les gens de l'époque cherchaient la réponse à leurs questions et à leurs problèmes. De la même manière que vous et moi, nous cherchons des réponses à nos questions. Ils sont peut-être là au plus profond de notre cœur. Et la Bible nous parle de la reine de Séba. Quand elle entendit tout ce qu'elle entendit concernant Salomon et sa sagesse, cette reine, elle passa du temps à réunir les questions. Et elle vint avec un cœur honnête, un cœur préparé, un cœur prêt à écouter et aussi à apprendre. Peut-être aussi elle se posait beaucoup de questions au sujet des problèmes fondamentaux, de la souffrance, de la douleur, des relations humaines, de la société, des blessures du cœur, du péché, de l'immortalité. Et elle se rendit auprès de Salomon, elle lui demanda, elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Dans le cœur. Parfois, quand on me pose des questions, je peux répondre avec la parole de Dieu. Et pour d'autres questions, il me semble que c'est l'humilité de dire je vais réfléchir, je vais prier et je vais vous donner une réponse dans quelques heures. Nous ne connaissons pas tout. Un seul connaît tout. C'est Dieu. Et dans notre 21e siècle, les questions sont complexes. Et combien on a besoin de la grâce de Dieu, parce que comme cette femme, elle se rendit auprès de Salomon et dit ce qu'elle avait dans le cœur. Et Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. Jésus, quand il était sur la terre des hommes, Matthieu 12, 42, la reine du midi se lèvera, c'est-à-dire la reine Séba, au jour du jugement, avec cette génération, il la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, ici, il y a plus que Salomon. Ils vont découvrir, au travers de la parole de Jésus, le témoignage de cette reine qui est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et Jésus dit, ici, il y a plus que Salomon. Et ce matin, nous voulons affirmer qu'ici, il y a plus que Salomon. Il y a plus que Salomon. Il y a la personne même de Jésus-Christ. Matthieu, Marc 6, 1. La même question s'est posée sur la personne de Jésus. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse? Qui lui a donné? Et comment de tels miracles se fait-il par ses mains? Et question, n'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie, ses frères, ses sœurs, sont-ils pas au milieu de nous? D'où lui vient cette sagesse? Et qui lui a donné? Jésus connaissait et connaît tous les hommes. Il sait lui-même ce qui est dans l'homme. Et la sagesse, où se trouve-t-elle? Eh bien, l'apôtre Paul, Colossiens chapitre 2, verset 23, enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Christ, savoir, mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, verset 10, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui. Quelle révélation merveilleuse de l'apôtre Paul reçu par l'Esprit Saint, enrichi d'une pleine intelligence. Une intelligence spirituelle qui nous permet de connaître le mystère de Dieu, mystère caché pendant des siècles, millénaires, mais révélé, qui n'est plus mystère, parce que le mystère de Dieu, c'était savoir Christ. Mystère, mais révélation, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est une révélation de Dieu. C'est une richesse pour la créature. Et l'homme a besoin d'une intelligence spirituelle. Connaître Christ, voilà le vrai trésor, voilà la vraie richesse de l'homme. Béni soit le Seigneur pour notre intelligence. Mais il faut le reconnaître, quand nous sommes venus à Christ, il a fallu cette révélation, il a fallu cette intelligence spirituelle. Et quand il y eut cette révélation spirituelle, cette connaissance concernant Christ, on a dit, voici le vrai trésor, la vraie richesse de l'homme, c'est Christ. Et il y a plus que Salomon au milieu de nous. Paul dit aux Corinthiens, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Il est sagesse, justice, sanctification, rédemption, notre médiateur entre Dieu et les hommes. Il a payé la rançon. Je crois que tout cela doit nous réjouir. Bien-aimé, du fait de cette connaissance de Christ, nous pouvons apporter nos questions et nos problèmes au Seigneur. Quand nous sommes venus à lui, nous sommes venus parce que nous ne savions point qui nous étions. Mais maintenant nous savons qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi nous sommes là, le but de notre vie, et nous savons où nous allons. Mais quand je lis la Bible, je m'aperçois que les chrétiens nés de Dieu, de Jésus-Christ, se posaient encore de grandes questions. Et ce matin, vous pouvez avoir de grandes questions dans votre vie. Si vous venez de naître à la foi, vous pouvez avoir de grandes questions, mais vous aurez aussi de grandes réponses. Si je vais aux Thessaloniciens, les chrétiens venaient de perdre quelques bien-aimés, ils venaient de découvrir la foi, et Paul leur dit au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui sont décédés, eh bien, je ne veux point que vous soyez sans espérance. Parce que nous avons une espérance. Et après, nous allons avoir tout l'enseignement sur la résurrection, sur le retour de Jésus. Il y a donc cette réponse à leurs questions. Nous pourrions multiplier les exemples. Quand Paul dit aux Corinthiens, pour les choses dont vous m'avez écrit. Et on sait sur quoi les Corinthiens ont écrit. Il répond, il dit pour ce qui concerne ça, pour ce qui concerne encore cela, pour ce qui concerne encore cela. Et qu'est-ce qu'il traite dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7e ? Il traite la vie du couple, il traite l'intimité du couple, il traite aussi la prière et le jeûne d'un commun accord si c'est pour un temps assez long, et il dit les risques, les tentations, il parle des jeunes filles, les vierges, il parle de tout. Il parle encore pour ce qui concerne. Ils avaient donc des grandes questions. Et la parole de Dieu, elle répond. Et je crois, bien aimé, ce qui est important, c'est que nous avons nos questions. Les étudiants qui arrivent sont un peu déracinés de leur pays pour quelque temps, sans famille, sans amis. Alors la référence, ils sont assemblés de Dieu. Alors on leur dit, mais il y a les assemblées de Dieu, cette grande famille spirituelle. Donc ça c'est important. Si vous regardez au tableau d'affichage, vous verrez qu'il y a un beau, c'est quelque chose de très très beau. Vous verrez ça en sortant, concernant aussi l'étranger. Donc, et quand ils arrivent là, ils se posent des questions. Est-ce que je vais réussir mes études? Est-ce que je vais avoir ceci, cela? Les inquiétudes. Et quand on vient à la foi, est-ce que je vais... On va s'engager avec le Seigneur. Est-ce que je vais tenir ferme? Est-ce que je vais pas chuter? Est-ce que la grâce de Dieu va me garder? Je me souviens quand je me suis donné au Seigneur, ma vie a été marquée. Et puis j'ai appris des mauvaises nouvelles. Et j'ai été un petit peu déstabilisé. Je n'avais seulement que quelques mois, et j'ai eu le privilège de commencé à porter la parole dans l'Église un an après ma conversion. Mais quand j'ai entendu les quelques mauvaises nouvelles, j'ai dit au Seigneur, moi je veux être un bon chrétien. Et pour moi, être un bon chrétien, c'était, on vient à l'Église, on lit sa Bible, on chante, on a un témoignage conforme à la parole de Dieu, on met sa dîme et on va vers le ciel. C'était bien. C'était bien. Et j'ai dit au Seigneur, moi je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je veux pas connaître une chute. Et je suis resté avec ce problème dans mon cœur. Et un beau matin, un don spirituel entre autres, a dit, je ne t'ai pas appelé pour te perdre, mais pour te sauver, pour te conduire dans la gloire. Dieu répond à nos problèmes. Et Dieu est celui qui est tout puissant pour nous garder. Il le dit dans cette prière sacerdotale qu'il va nous garder et que nous nous gardons aussi en lui, bien-aimés. On peut se poser toutes sortes de questions concernant notre vie familiale. Comment nos enfants vont-ils grandir dans ce monde où il y a la corruption? Mais dans la parole de Dieu, est-ce que Samuel n'est pas né dans un moment de corruption? Et Dieu a su garder sa vie. Il saura garder nos enfants, même si malheureusement ils s'écartent, ou ça nous fait du mal au cœur, ça nous blesse. Mais Dieu est tout-puissant. Il les connaît. Nous ne pourrions nous poser d'autres questions. Et vous les connaissez, ces questions. Mais en Christ, nous avons tout pleinement. Parce que en lui sont tous les trésors de la sagesse. C'est lui, en lui seul. Et c'est dans notre communion avec lui. C'est dans notre révélation avec lui. C'est avec notre intimité dans la lecture de la parole de Dieu. Les choses ont changé, même au milieu de nos assemblées. Ça n'a plus beaucoup à voir, comme dit l'apôtre, une foule de docteurs. Les gens se sont établis une foule de docteurs. Alors, c'est la prospérité. Donnez de l'argent, vous serez bénis. Bon, vous vous dépouillez et vous pouillez, comme dit quelqu'un d'autre, comme si on pouvait monnayer, comme si les meurtrissures de Jésus pouvaient devenir, on pouvait les commercialiser. Mais quand j'écoute certains, ils voient des démons partout. Et ils voient des démons quand ils ne sont pas là. Soyons équilibrés dans notre foi. N'allons point être tous ces gens qui vont toujours aller de droite à gauche pour recevoir une parole. La parole de Dieu, elle nous permet, elle est solide. Et c'est en Christ, dans notre intimité avec lui. C'est avec lui que nous allons grandir et que nous grandissons et que nous allons devenir fermes et que le Seigneur va nous bénir en abondance. Le Seigneur a une réponse à chacune de nos questions. Et quand on a une réponse à notre question, nous n'allons pas toujours chercher à approfondir puisque nous avons la réponse. Soyons justes. La parole est la nourriture pour notre âme. C'est le pain de vie. Je disais, Salomon aimait l'Éternel. On le voit, ce jeune, inexpérimenté, comme il le dira au Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. Et Dieu va lui donner la sagesse. Vous savez comment il va commencer son ministère lorsque ces deux femmes vont amener le fils, leur enfant, qui est étouffé, deux femmes de mauvaise vie. Et Salomon, avec l'épée, va dire, eh bien, coupez l'enfant en deux, vous, un morceau à chacun. Ah non ! C'est celle-ci la mère. C'est celle-ci la maman. Et on voit comment Dieu a béni, mais on s'aperçoit qu'à une époque, Salomon, dans le temple, va être à genoux devant Dieu et va réaliser qu'il ne peut, par sa sagesse, régler certains problèmes, parce qu'il dira, lorsque les hommes viendront en ce lieu pour prier, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et sa douleur. Pardonne, guérit. Il réalise que malgré sa sagesse, malgré le monde qui vient, il peut répondre, mais il y a les blessures du cœur, la douleur du cœur, où il faut une grâce toute particulière qui vienne du ciel de gloire. Et bien aimés, nous avons besoin, ne restez pas avec vos cœurs blessés, meurtris, mais demandez au Seigneur qu'il vous aide par l'Esprit Saint, qu'il vous aide par sa grâce, qu'il guérisse la douleur de votre cœur, de votre enfance, de votre adolescence, de votre jeunesse. Un jour, j'avais 40 ans, une jeune fille universitaire, devant sa maman, elle me dit, « Monsieur, je voudrais vous poser une question. » Je dis, « Allez-y, mademoiselle. Est-ce que vous en avez terminé avec votre adolescence ?» Et sa maman fut offusquée. Mais je lui ai dit, oui, j'en ai terminé avec mon adolescence. Et j'ai vu avec grand respect des hommes, des femmes de plus de 80 ans, presque 90 ans, qui n'en avaient pas terminé avec leur adolescence. C'est-à-dire qu'ils avaient encore des blessures de l'adolescence, des blessures de la jeunesse. Elles sont enfouies et des fois Dieu met son doigt pour les faire ressortir. Dieu ne veut pas que nous gardions quelque chose en nous qui nous fasse souffrir. C'est très émouvant quand on voit quelqu'un qui vient et qui sait et qui ouvre son cœur. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous ne sommes plus des adolescents. Mais on traîne des choses de l'adolescence. On peut traîner, on peut avoir toutes ces choses. Mais Dieu, par sa grâce, il sait guérir nos cœurs brisés. N'est-il pas venu pour ça en premier ? Bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que le Seigneur nous bénisse les uns et les autres et qu'il nous donne une grâce. Et Salomon, il aimait l'Éternel. Et on voit quand il écrit le cantique des cantiques, quand il écrit aussi bien des proverbes aussi, passages, quand il écrit aussi des cantiques, on voit toute cette richesse. Et quand il écrit le livre de l'Ecclésiaste, les bras nous en tombent. Et pourtant, c'est une réalité. Pourquoi ? Parce que Salomon a essayé de substituer la sagesse humaine à la sagesse venant de Dieu. Il va dans la sagesse de ce monde. Et puis il réalise que cette sagesse de ce monde le laisse dans l'insatisfaction. Des fois, on voudrait remplacer des choses en disant, maintenant, je pourrais me permettre, je pourrais faire cela. Je n'ai peut-être pas besoin d'être aussi consacré. Tout jeune, comme je vous l'ai dit, la voix de l'ennemi m'a dit, mais tu Tu sais, si tu restes bien équilibré, tout ce que tu as reçu, mais tu peux aller goûter un peu le monde, hein, tu arriveras bien équilibré, tout ça. Les conseils venant de l'ennemi de nos âmes nous conduiront toujours à la destruction si on ne sait pas les rejeter immédiatement. Pour terminer, Salomon va goûter le matérialisme dans l'opulence. Il va se détourner de Dieu. Il va être aimé. Il va aimer d'autres choses. Et son amour va diminuer pour Dieu. Que jamais notre amour ne diminue pour Dieu. Parce que la Bible nous dit que par le Saint-Esprit, le Seigneur nous répand cet amour et nous renouvelle. Mais quand l'amour diminue pour Dieu, notre amour va aller vers autre chose. Le jour où le fils prodigue, son amour a diminué pour son père, dans ses relations, son cœur s'est porté vers autre chose. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Il faut que nous gardions cet amour pour Dieu. Dieu gardera dans son amour. Et on voit que Salomon va vivre dans l'opulence, occuper ses soirées, ses heures par l'oisiveté, dans la musique, dans les boissons alcoolisées. Tout ce que son cœur désirait, il l'obtenait. Et quel que fût le résultat final de la recherche des biens matériels, de la richesse et du plaisir, quand on lit tout cela, il dit « Tout est vanité et poursuite du vent ». Nous l'avons lu dans le livre de Job. Si je prenais un verre vide, et quand il y a le vent va venir remplir le verre. Mais en réalité, il ne remplit rien du tout. Hein. Le verre sera toujours vide. Et les plaisirs terrestres et les choses matérielles remplissent une vie vide. Mais la vie sera toujours vide. Nous le savons les uns les autres. Et le mystère de Christ, c'est une révélation de Dieu. C'est une richesse pour la créature. Et nous avons besoin d'un renouvellement dans notre intelligence spirituelle. Connaître encore Christ, voilà la richesse spirituelle. Voilà la grâce de Dieu. Voilà la bénédiction du Seigneur. C'est là qui nous révèle ces mystères de la piété. Il est notre justice. Il nous rend juste aux yeux de Dieu. Il nous met en règle avec Dieu. Il est notre sanctification. Il est celui qui nous sanctifie intérieur. Il est celui qui fait ce beau travail et qui nous permet de marcher dans une marche avec lui, de glorifier son nom. Il est aussi notre rédemption. Il a ôté de nos vies la malédiction et la condamnation du péché. Il n'y a plus aucune condamnation. Et vous qui vous approchez de Dieu, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul a pu dire « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et puis tout à coup, gloire soit rendue à Dieu. Gloire à Dieu. Pouvons réaliser notre faiblesse. Mais notre relation avec Christ nous fortifie, nous encourage, nous donne une grâce particulière. Bien-aimés, ne restez pas sur vos échecs. Ne restons pas sur nos échecs. Mais déterminons-nous à marcher avec Christ. Soyons forts et nous sommes par Jésus-Christ. La sagesse est en Jésus-Christ. Et d'où lui vient cette sagesse? Lui vient du Père, mais il est lui-même sagesse. Il est la sagesse. Quelle grâce! Quelle bénédiction! Aimez cette parole aimons cette parole de Dieu. Elle est la réponse à nos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, une guérison, levez-vous à votre place ou donnez leur cœur au Seigneur et l'on va prier pour vous dans le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.